Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h38, Stéphane Guy, Daniel Riolo, c'est terminé en Ligue 2 à Grenoble, Edouard.
L'équipe de Grenoble en plein cauchemar, cinquième défaite consécutive puisque Laval l'emporte avec deux buts de Pablo Pagis à la 31e minute et un pénalty de Labo Lascari à la 72e minute. Par contre, eux, ils sont en plein rêve. Ce sont les Lavallois qui, avec cette victoire, eh bien, passent devant Saint-Etienne et passent à la troisième place de la Ligue 2 avec 48 points, à 2 points même d'Angers et à 4 de Auxerre. Donc, ils sont dans les clous pour les barrages, voire plus, si affinité. Tout va bien donc pour Laval, victoire 2-0, tout va mal pour Grenoble. Défait 2-0, la cinquième de suite.
Merci Edouard, bonne soirée. Pendant ce match, Chelsea mène 3-1 face à Newcastle à 11 minutes de la fin du match et Almeria mène toujours à 0 face à Séville à 10 minutes de la fin. Oui.
Et Newcastle, ça a moyen les Saoudiens.
Oui, on en parle un peu moins de Newcastle ces temps-ci, c'est vrai.
Ils sont dans le
depuis la Ligue des Champions. Là.
Ils ont fini dernier de groupe
ouais.
Au final.
Oui, ça va pour retomber dans l'anonymat, enfin, du point de vue français. Bon.
Enfin, il y a la caillasse. Hein.
Oui. Bah, écoute. Alors, je voulais qu'on fasse donc le point, ce qui nous permet de parler un peu de toutes les équipes concernées, sur le haut du classement et la course à l'Europe. On peut démarrer par le dossier niçois, si vous le voulez bien, parce que là, effectivement, c'est la débandade. Nice qui était sur le podium, qui a été sur le podium plus de la moitié de la saison, quasiment, hein, et qui là se retrouve sixième. Alors, vous savez qu'on a un nouveau jingle podium des quatre.
Dans le podium, c'est quoi? C'est dans les trois ou dans les cinq?
Ah! Il avait vu le podium des 5 aussi. Il est fort, c'est Louis. Bon, Nice, vous pensez que c'est... que vous les voyez revenir, pas revenir? Comme disait Stéphane, reste maintenant 9 matchs.
Non, parce qu'il y a des équipes qu'on voit perdre. On a vu perdre Brest, on a vu perdre Lens. Et c'est des équipes qui gardent le fil et où tu sens qu'il y a une... Par exemple, à Lens, tu sens qu'il y a une union de tous. Quoi. Que Aize, ils mènent
sa
troupe.
Dynamique.
Ils sont là, voilà. À Nice, il y a le jeu, mais il y a surtout, je crois, puis c'est un peu les échos que j'ai de Nice, c'est que je suis pas certain que Farioli et ses joueurs ce soit le grand amour et qu'il y a des vraies questions qui se posent dans le vestiaire sur cet entraîneur là. Donc ça, c'est quand même, quand tu abordes un sprint de finale comme ça, et ça transpire en ce moment dans les matchs, quoi.
Daniel sur Nice.
Passons sur l'idée que il est venu, je l'ai guigné, hein, parce que Julien Stéphan est également venu et il a enchaîné les victoires, donc la légende de l'after qui guigne les entraîneurs, ça suffit. écoute
toi qu'on parle d'ailleurs.
Non, mais c'est historique.
On en a parlé dès le début de la saison de cet entraîneur qui incontestablement est un type brillant, hyper intelligent, qui sait ce qu'il veut faire, qui sait ce qu'il veut mettre en place. Il a mis en place au début de la saison. Les débats ont été houleux sur ce que je pensais de son jeu et sur l'idée qu'il fallait attendre et qu'on verrait bien ce qu'on allait voir au printemps. Malheureusement, pour les Niçois, j'ai un peu vu juste parce que je voyais pas réellement les phases de progression. Parce que quand je me suis penché encore plus sur ce qu'il faisait, sur ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire au moment où il est venu dans le DR Show, et que j'ai vu la façon dont ses anciennes équipes jouaient avec les séquences de jeu, je me disais... Ok, qu'il ait des super idées, aucun problème. Moi, encore une fois, j'ai fait une rencontre incroyable quand j'ai croisé ce type-là. Vraiment un type au-dessus, quoi. Mais je pense qu'il a pas les joueurs pour faire son histoire. Et je suis pas sûr qu'il va avoir des joueurs capables de vouloir bosser comme lui il veut. En tout cas, pas ces Niçois-là. Pas ces Niçois-là, parce que dans ce groupe-là, je pense pas qu'il ait les caractères que lui veut. Il a deux trois têtes qui vont être difficiles à faire rentrer dans les clous. Et comme il fait partie,
tu penses
de...
à qui quand tu dis ça, Daniel?
Écoute, je veux pas citer les noms parce que ça va. Bon, le type qui s'est énervé contre les supporters, c'est pas un mec que je trouve fantastique.
Tony Dibour, en l'occurrence.
Oui.
C'est du combat.
C'est pas nouveau ce que je pense de lui, mais on va dire que quand ça va, ça va.
Il y a des.
On va dire que c'est le genre de mec qui, quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça tire au flanc. Et au final, quand il y a des tensions dans le vestiaire, c'est toujours autour de lui que ça tourne, visiblement. Et peu importe les entraîneurs. Bref, passons à autre chose. C'est compliqué de mettre en place ce qu'il veut. Et comme il fait partie de ces entraîneurs intellectuels qui veulent le schéma de jeu avant tout, et qui ont besoin de, comment dire, de, de modeler les individualités, il faut un peu de temps quand même. Il faut un peu de temps et je sais pas s'il a tous les joueurs pour son modèle de jeu.
Et normalement, les résultats auraient dû lui faire gagner du temps. C'est souvent ça, que ça sert, les résultats.
Oui, mais les résultats, quand tu les regardais, moi, on a fait des débats, là, les Niçois m'en ont voulu et tout, quand je leur disais, mais la victoire contre Monaco, où ils se pâment, ils sont heureux et tout. Tu peux pas fanfaronner sur une victoire où t'as un mec qui rate deux pénaltys. Le match, dans le jeu, tu l'as pas gagné, ce match. Ils en ont fait des caisses et des caisses sur le match au Parc des Princes. Mais tous les ans, on dit, il n'y a pas plus traître dans l'analyse que le match au Parc des Princes. Oubliez-le dans vos calculs. Ils m'ont dit, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ouais, t'as deux buts, le ballon, il tape sur le cul d'un tel, sur le genou de machin, et il rentre dedans. Alors regardez ce qui se passe quand même, arrêtez de vous enflammer. Et puis après, t'as toute la tripotée de matchs de victoire à 1-0. Et c'était pas les 1-0 comme à l'époque, parce que j'avais fait le parallèle avec Vahy de 2003-2004. Parce que lui, il voulait réellement jouer comme ça. Là, il y avait de l'ambition dans le jeu, mais ça passait de cette façon. Et c'est pas exactement ça l'objectif, en fait. Hein. C'est pas de gagner 1-0 de cette façon. Normalement, ça doit être un jeu beaucoup plus... Donc, je sais pas comment il va trouver la clé. Enfin, il arrive là face à un vrai, problème.
Ils ont un truc extraordinaire à jouer, c'est ce match de mercredi à Paris. Où là, pour le coup, c'est un one-shot où tu peux t'offrir du rêve pour un mois.
Absolument. Donc là, je sais pas comment ça va tourner pour eux là.
Il y a meilleur endroit pour s'offrir du rêve, hein, mais bon, voilà. Bon,
après, ça dépend de la composition de Géo Trouve Tout. Je sais pas, il paraît que dans les grands matchs, maintenant, il va mettre les vraies équipes avec les vrais joueurs. Je sais pas.
Est-ce qu'il va considérer que c'est un grand match?
Demi-finale de Coupe de France, bah avec lui on ne sait pas. Avec lui on ne sait pas parce qu'à un moment, parce que il avait quand même dit à un moment que la Ligue des Champions n'était pas forcément une priorité.
Bon, Nasser Al-Khelaifi l'a redit hier.
Bon, alors donc si la Ligue des Champions n'est pas une priorité, je ne sais pas ce qu'il l'est. Bon bref, revenons plutôt à Nice. Oui, ils ont ce truc-là. Enfin, ça ne veut pas dire que tu sors le PSG, tu la gagnes derrière. Une année, ils l'avaient fait de gagner avec Galtier contre le PSG, et puis derrière, ils n'ont pas gagné la Coupe de France.
Elliot est là, il est supporter niçois. Elliot, bonsoir.
Bonsoir, merci de me prendre en ligne. Bonsoir les gars.
Bon, tu es d'accord sur ce que tu entends là sur ton club?
Ouais, à peu près. Bon, pas entièrement surtout. Bon, moi, il y a un truc où je veux revenir, on n'en parle pas assez. Farioli à Nice, bon, il a été aimé, franchement, avec les bons résultats qu'on a eus. C'est vrai, Daniel, sur ce que tu disais en début d'année, tu disais qu'on s'ennuyait pas mal, etc. Franchement, en début d'année, nous, en tant que supporters, on s'ennuyait pas tant que ça parce que, si tu veux, tout le monde se battait l'un pour l'autre dans l'équipe, tu vois.
Mais tu t'ennuyais pas parce que t'avais les résultats. Une équipe comme Nice qui a des résultats et tout, mais quand tu regardais neutre, tu te faisais chier à mourir.
Je suis entièrement d'accord. Et encore aujourd'hui, maintenant, on le voit, on se fait chier à mourir. Bah oui. Moi, un truc qui m'inquiète, il y a deux choses. Déjà, au niveau offensif, je vois pas dans la tactique qu'il fait dans son 4-3-3, comment tu peux marquer des buts quand t'es deux ailiers. Il touche la ligne, t'as ton attaquant de pointe qui essaye de revenir vers tes milieux et t'as aucun milieu qui plonge. Donc en fait, ça, tu peux jouer pendant 8 heures, tu marqueras pas. D'ailleurs, en 2024, on a mis que 2 buts dans le jeu, en championnat. La deuxième chose qui m'inquiète, c'est au niveau du management de Farioli, parce que c'est un mec qui est très intelligent, comme vous l'avez dit, au niveau du football, etc. Il connaît très bien le foot, bon, ok, pas de problème. Mais en fait, moi, j'ai remarqué avec ce groupe-là, principalement, ces joueurs-là, c'est que si t'es pas un petit peu directif à un moment donné, que tu leur rentres pas dedans, ils réagiront pas. L'année dernière, quand il y avait, c'était Lucien Favre qui s'était fait virer, ils avaient mis Digard. Digard, bon, tactiquement, c'était pas exceptionnel, mais ils avaient eu cette espèce d'électrochoc de se dire, maintenant, il va falloir qu'on se bouge. Là, cette année, en fait, avec Farioli, il est tellement bienveillant auprès de ce groupe, il leur donne toujours confiance, etc., que il y a une espèce de barrière, en fait, ils n'arrivent pas à se dire les choses, et je pense qu'ils ne leur rentrent pas assez dedans. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que c'est des mecs qui ont du ballon. Franchement, on a un bon groupe, malgré ce qu'on peut dire. Il y a des bons joueurs dedans. Mais j'ai l'impression qu'à trop les caresser, bah, au final, ça va finir qu'on ne va pas se qualifier en Coupe d'Europe et qu'on va passer à côté de tout. Quoi. Et moi, de Farioli, c'est ça que je pense. C'est-à-dire que c'est un bon entraîneur, mais c'est un mec qui ne rentre pas assez dans ses joueurs. Et le problème de ça, c'est si par exemple, tu prends un mec comme Comboiré.
Mais alors, regarde Gassé, Elliot. Il a fait justement tout l'inverse. Plutôt que rentrer dans les joueurs, il les a pris un par un. Où est-ce que tu veux jouer? Et comment? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et patati et patata.
Et ça, c'est pas bon. Quand ça va, ça se passe bien. Mais je pense qu'il faut garder une espèce de distance, une certaine distance, et pouvoir à un moment donné leur entrer dedans. Et là, si dans ce groupe-là, tu leur mets pas un électrochoc et tu les rentres dedans, ils sont tellement sûrs d'eux, de leur football, de leur qualité, etc. que si tu le rentres pas dedans, c'est
mais de quoi veux-tu qu'ils soient sûrs? Attends, ils ont fait quoi? C'est qui? On parle de vedettes internationales là pour qu'ils soient sûrs d'eux, les mecs?
C'est ça le problème. Et des carrières.
Non, mais je pense qu'il y a pas mal de prétentieux dans cette équipe. Ça, c'est encore autre chose.
Oui, ça, je suis d'accord. Mais dire, c'est que tu as des espoirs du foot, on va dire, il y en a eu plein.
Et l'entraîneur, il n'est pas prétentieux à Nice, Daniel, non? Vous trouvez pas?
Je pense pas, moi.
Je crois pas que ce soit une de ses caractéristiques, non. Je crois pas, non.
Non, mais il a des idées bien arrêtées, quoi.
Il a une idée de ce qu'il veut faire. Ouais. Après, est-ce que le message est toujours compris? Est-ce que ça passe? C'est encore autre chose. Mais c'est pas, non, je crois vraiment pas que ce soit.
Moi, je pense qu'il y a des joueurs à Nice, je sais pas, je vois pas un Laborde, je vois pas un Sanson, je vois pas un. Même à Dante, avec ses. Aujourd'hui, à mon avis, ses limites, mais c'est à mon avis des joueurs qui sont tout à fait aptes à suivre un projet d'un entraîneur. Hein. Tu parles de Todibo, bon, je connais pas.
Il y a d'autres défaillances individuelles. Mofi, par exemple, ce week-end, il a été ultra nul.
Ouais. Mais Mofi, il est nul depuis le début de la saison, hein, faut dire la vérité.
Non, il a fait quelques matchs quand même, alors qu'à début.
Il est bien démarré,
Quelques matchs, alors, pour un attaquant recruté 25 millions.
On n'a pas dit que c'était Haaland, quoi.
Non, mais j'en ai rien à dire. Il n'y a pas de quelques matchs. Quand tu vaux 25 millions, c'est pas quelques matchs. Tu dois déjà être à plus de 10 buts. Il est à combien? Enfin, tu vois, non, il faut le dire. L'année de Mofi, elle est mauvaise. Elle est même très mauvaise.
Allez, concluons là-dessus sur Nice.
Je ne sais pas et je ne suis pas sûr qu'il rentre dans les idées de son coach. Et ça, on le dit depuis le début de la saison. Ils ont essayé de nous dire le contraire, mais ça m'étonne.
Il ne faisait plus jouer là.
Oui, à un moment, il a remis Guessant en neuf qui correspondait plus. Bon, là,
moi, j'ai toujours un peu de mal avec la théorie du génie incompris. Quoi. Je me dis, je ne sais pas si je...
Il ne s'agit pas de génie incompris. Il s'agit peut-être que d'un mec qui, dans un contexte, peut réussir, dans un autre, ne peut pas. C'est tout.
Ah oui, peut-être.
Dans un instant, on continue le débat. On va parler un peu de Marseille et de Rennes aussi, et de Lille, parce qu'on n'a pas parlé de Lille non plus hier soir. Et donc, le podium des cinq en débat dans l'after. Continue tout de suite.